La 1400, je ne sais plus combien, mais enfin, ça fait un bout de temps. Et puis, c'était Franz Pino aujourd'hui avec Rideau Bayonne et Amina Mesach. Merci beaucoup, Rideau. On te retrouve l'année prochaine pour un nouveau disque et des concerts au Cabaret Sauvage, je crois.
Absolument.
Ça va être super. On y sera, évidemment. Amina, donc, on peut te retrouver sur des festivals, des concerts.
Le 22 juin à Aubonne. Le 1er août dans Lyon, au Château de Ratilly. Et le 3 août dans les Cévennes Jazz à Vialas.
Ouais, ça va être voilà. Ça va être formidable. Si vous Folcalier est entendu partout dans toute la France et même à l'étranger, et donc si vous nous entendez, chères auditrices, auditeurs, allez au concert, vivez tous ces moments inoubliables, et c'est vraiment aller rencontrer tous les musiciens, c'est vraiment vraiment important. La semaine prochaine, c'est Hervé qui revient, la semaine d'après c'est Serge, et moi je reviens le 16 juin avec Ninon Valder et Antonin Poquet et avec, je ne sais plus, mais vous regardez sur la page Folcalier de Facebook et c'est marqué, ou sur le site de l'émission folcalier.free.fr. Voilà, on vous souhaite plein de bonnes choses et une bonne fin de week-end. Merci à toi Alain pour la technique. Merci, prenez bien soin de vous.
Bien, bon week-end.
À bientôt, au revoir.
Au revoir.
Sans Dieu, sans maître, sans publicité de la Fédération anarchiste. Tempête sur les planches, va suivre dans un instant. Passez à la librairie du Monde Libertaire au 145 rue Amalo pour, par exemple, acheter le Monde Libertaire ou bien pour acheter des livres et autre chose.
cerise et gay rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête.
Aujourd'hui, une tempête qui n'a pas de sens.
À vos postes, de TSS, j'entends, que la dernière fois. Il me semble vous reconnaître. Quel auditoire sympathique et charmant.
Bon, c'est Thomas Dambourg, on commence Tempête sur les planches sur Radio Libertaire 89.4 et aujourd'hui tout autour de Jean Tardieu.
Souvent ici ?
Mais non, mon ami, ma pâle, mon bison. J'espérais vous raviner. C'est pourquoi je suis bardé,
Il suffit, je grippe tout. C'était donc vous, le mystérieux sifflet dont elle était la mitaine de la sarcelle ? Vous, oui, vous qui veniez faire ici le mascaret, le beau boudin noir, le joli pied, pendant que moi, eh bien, je me ravaudais les palourdes à babiller mes pauvres tourteaux. Allez ! Vous n'êtes qu'un...
Fiel, mon lampion. Quoi ? Vous ici, cher comte ? Quelle bonne tulipe ! Vous venez renflouer votre chère pitance ? Mais comment donc êtes-vous bardé ?
Eh bien oui, je bredouillais dans les garages. Après ma séance au sleeping, je me suis dit, Irène est sûrement chez Safarine. Je vais les susurrer toutes les deux.
Cher comte, posez donc votre candidature, là, et prenez donc ce galopin. Vous devez être caribou.
Ah oui, vraiment caribou. Le saut-piqué s'est prolongé fort dur. On a frétillé, rançonné, re-rançonné, refrétillé, câliné des boulettes à plein flocon. Je me demande où nous cuivra tout ce potage.
Cher, mon zébu semble tellement assez planche dans votre charmant tortillon que l'on croirait... Oserais-je le moudre ?
Mais oui, allez-y, je vous en mouche.
Eh bien oui, l'on croirait qu'il vient souvent ici ronger ses grenouilles. Il barre de là tout droit, le sous-pied sur l'oreille, comme s'il était dans son propre Finistère.
Ça, c'était donc un extrait de Amour pour un autre de Jean Tardieu qui donne un petit peu l'une des facettes de son écriture, parce que c'est un auteur dramatique tout à fait exceptionnel qui passe de ce type d'écriture, Amour pour un autre, qui est une de ses pièces courtes les plus connues, à des pièces parfois beaucoup plus dramatiques et qui a un univers très très particulier. Je pense qu'on est tous tombés amoureux de ces textes qui sont assez complexes et en même temps assez profonds et puis qui nous font beaucoup rire aussi.
Et ça, c'est la voix de Serge Sandor, un metteur en scène qui anime la compagnie du Labyrinthe et qui vient une fois de plus nous parler d'un nouveau projet, un nouveau spectacle qu'on va pouvoir découvrir à Paris dans quelques semaines. Mais voilà, Serge, avec ses comédiennes, ses comédiens, en tout cas une partie de ces belles personnes qui nous interprètent Jean Tardieu. Et j'ai reçu cette information, Serge, tu me l'as envoyé. Je me suis dit, tiens, ce Jean Tardieu, alors, ça fait quand même un moment qu'on n'en a pas entendu parler. On l'a un peu oublié. Il nous faut bien quelqu'un pour nous le rappeler. Qu'il existe, qu'il a écrit. On n'a pas du tout oublié Ionesco, mais on a oublié Tardieu un petit peu. Mais je me souviens quand même d'une époque, il y a une quinzaine d'années, un peu plus, on avait des émissions, je crois, de théâtre, il y avait des compagnies qui venaient, qui jouaient Tardieu. Il est un peu passé de mode, et on ne sait pas pourquoi. Vous, en tout cas, vous êtes en plein dedans, et ça fait du bien. Alors, je pense que c'est très bien, ça tombe très bien, puisque, bon, vous pouvez nous parler un peu de Jean Tardieu, mais il paraît qu'il faisait aussi de la radio, n'est-ce pas ?
Oui, Jean Tardieu, il a une carrière tout à fait particulière. C'est vraiment, il a couvert tout le XXe siècle. Il est né, je crois, en 1903 et mort en 1995. Et effectivement, après la guerre, il a travaillé une bonne vingtaine d'années sur Radio France, je ne sais plus si c'est ou l'ORTF, je ne sais plus comment ça s'appelait à l'époque. Il a aussi été traducteur de Goethe et d'autres auteurs. Il a écrit beaucoup de poésie et de nombreuses pièces. Et voilà, c'est un auteur effectivement que je connaissais moi gamin parce que dans les cours de théâtre, il était presque incontournable. Un mot pour un autre, c'est un exercice d'acteur tout à fait étonnant parce que on utilise une langue française avec des mots qui ne correspondent pas à ce qui est dit. Donc ça demande un travail un peu particulier pour l'acteur. Donc c'est vrai qu'on est tous passés par Jean Tardieu et comme tu le disais, Thomas, c'est vrai aussi que Ionesco, beaucoup d'auteurs anouilles de cette période sont restés dans les mémoires. Et c'est vrai que je trouve que Tardieu a vraiment sa place et extrêmement, extrêmement original. Et peut-être que nos comédiens peuvent en parler parce que je pense qu'eux-mêmes ne connaissaient pas. Bon, moi,
d'autant plus aussi que Tardieu, il était aussi proche de l'Oulipo, proche de la Résistance. Mm-hmm. Voilà, et c'est injuste. On n'a pas à l'oublier.
Je sais pas, je veux bien donner la parole à un comédien qui ont découvert Tardieu, je sais pas, David ou...
Non, mais je vais un peu répéter ce que vous avez dit, mais c'est vraiment c'est une grande découverte pour moi, je ne le connaissais pas du tout. Et d'abord, c'est une richesse, une variété incroyable. Dans tous ces textes, c'est très divers, très varié, et c'est très soutenu. L'écriture est très belle, très juste, et c'est très structuré. Peut-être que tout à l'heure on va faire la sonate, par exemple, où on s'est vraiment abaissé. C'est vraiment, c'est une très belle écriture.
Alors c'est à la fois structuré et un peu chantant, moi je trouve. Il y a vraiment une poésie des différentes phrases qu'on a à dire et des vers qu'on doit prononcer. Et c'est aussi ça qui rend parfois le texte un petit peu, finalement, à la fois dur et facile à apprendre, hein, par exemple. Hein. Et je trouve ça aussi, j'ai trouvé ça en chantant.
T'as trouvé ça facile à apprendre?
Je n'irai pas jusque-là, mais quand c'est chanté, quand c'est musical, et ben finalement, je trouve que c'est plus facile à appréhender et à retenir.
Et il y a un côté burlesque aussi, très très fort, et qui est... c'est très drôle, c'est cynique et drôle, et c'est très plaisant à jouer.
Complètement.
Alors Serge, tu peux nous présenter les comédiens qui sont là?
Bon voilà, c'est une partie de notre troupe amateur. Déjà dans un premier temps, je voudrais remercier le lieu qui nous accueille, l'espace Beaujon, dans le 8e arrondissement, avec toute l'équipe, Sylvain, Jean-Jacques, son directeur, et toute l'équipe qui nous reçoit depuis le mois de septembre, et qui l'année dernière aussi nous a permis de jouer le Concile d'Amour dans leur lieu, également de faire la création d'une pièce que je viens de créer avec les Petits Frères des Pauvres. Donc c'est vraiment un lieu tout à fait particulier, avec beaucoup d'humanité, ça je tiens à le dire parce que c'est pas toujours le cas. Donc dans notre troupe qui se trouve ici, donc il y a Géraldine Guérinet, qui travaille au ministère des Affaires étrangères. Donc ce sont tous des amateurs passionnés, mais addicts de théâtre depuis des années. David
Le Bolloc.
Le Bolloc, excuse-moi. Qui est scientifique, physicien au CNRS. Ensuite, Sidonie Lacombe. Excusez-moi, alors les noms de famille, je ne vous connais pas par les noms de famille. Bah, présentez-vous, Jérémy. Jérémy. Ouais.
Bah moi, oui. Devenu formateur en informatique, mais passionné par le théâtre qui m'a beaucoup aidé dans mon parcours scolaire et dans mon parcours de découverte du théâtre, de la littérature. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à apprendre à lire et à écrire. Et ce fut un ballon d'oxygène que le théâtre pour lutter contre mes angoisses et ma timidité originelle.
T'as oublié de dire ton nom, Jérémy.
Jérémy Véron, pardon.
Et moi, Sidonie, le théâtre, ça fait partie de la vie. Pour moi, je pense que la vie est une scène de théâtre. Et donc, c'est aussi pour ça que je suis passionnée de théâtre. J'ai beaucoup aimé dans Tardieu aussi... cette montagne russe des émotions, le côté très poétique, très humoristique, et donc le mélange des genres d'une scène à l'autre, c'est ce qui sera proposé, et c'est ça qui me fait dire que je suis à ma place ici avec vous, aujourd'hui.
On est
heureux. Cédric Elégorche, donc moi je suis, alors rien à voir avec le théâtre, puisque je suis manager pour une caisse de retraite complémentaire, mais j'avoue que ça fait 3 ans que je fais du théâtre amateur avec Serge et toute l'équipe. Et voilà, ça vaut largement toutes les thérapies du monde. Voilà ce que je peux dire. Je rejoins un petit peu ce que disait Jérémy, mais en termes de confiance en soi, pour régler des problèmes personnels, d'estime, etc., il n'y a rien de mieux que le théâtre.
Non, mais il faut pas aborder la chose de cet angle-là, parce que nous, on n'est pas là pour faire de la thérapie, n'est-ce pas, Serge? Non, on fait de l'art, et puis après, il y a quelques effets secondaires, éventuellement, voilà. Mais Serge, justement, tu peux nous dire pourquoi tu aimes à ce point travailler avec des gens qui ne sont pas des acteurs professionnels, parce que la dernière fois que tu es venu, là, c'était aussi un projet avec des gens très particuliers, qui étaient magnifiques. Et tu as, un don comme ça pour amener des personnes de la vie vers le théâtre et à les mettre en scène de telle façon que ce qu'ils peuvent amener de la vie résonne de façon très vraie et très belle sur le plateau. Et donc, pourquoi est-ce que tu ne travailles pas, ou disons peu, avec des comédiens professionnels?
Bon, il m'arrive également de travailler avec des comédiens professionnels, mais c'est vrai que j'ai toujours cette passion de travailler avec des amateurs. Bon, là, entre autres, tu parlais des personnes âgées, des petits frères des pauvres. Et puis, bon, tout mon parcours aussi est enrichi par toutes ces multiples expériences, que ce soit dans les prisons avec les détenus, les SDF, les femmes battues, les jeunes des foyers, tout ça. J'ai toujours pensé d'abord que le théâtre était un acte aussi politique, ça permettait aussi de changer le monde. En tout cas, quand j'étais gamin, je pensais que ça permettait de changer le monde, et je crois que ça peut le changer encore. En tout cas, c'est un lieu où l'intelligence, la conscience est mise à épreuve, et ça permet aussi à des gens qui sont éloignés de la culture de découvrir un monde auquel soi-disant ils n'ont pas accès. Ce que je tiens à dire, c'est que mon exigence est la même qu'avec des comédiens professionnels. Et que c'est très important pour moi que le regard du public, c'est-à-dire que si je travaille avec des personnes âgées, des personnes en détresse, ou des gens qui sont, comme je dis, dans des déserts culturels, il est important pour moi d'avoir déjà un travail d'acteur très très pointu. Effectivement, la différence avec des professionnels, un projet que je ferai avec des professionnels sur 2 mois, avec des amateurs, je le fais sur 5-6 mois, parfois. Comme il y a un an et demi au Costa Rica avec des détenus, des jeunes filles en détresse, on a pris presque 6-7 mois de travail. Et aussi, ce qui m'apporte beaucoup, c'est aussi d'être dans des lieux, entre guillemets, prestigieux, c'est-à-dire me battre aussi pour que les théâtres nous accueillent, comme un projet qui peut rentrer dans une programmation, comme ça a été le cas à La Tempête, au Théâtre de La Tempête, au Théâtre de l'Aquarium, ou à Chaillot, ou à Cuba, dans des endroits prestigieux, avec des malades psychiatriques. Et j'ai cette passion, et je la retrouve aussi avec des acteurs amateurs, ici, sur Paris, qui aussi redécouvrent peut-être aussi un peu le théâtre avec moi, d'une autre manière, parce que je pense que si avec le temps, j'ai trouvé aussi un style, une volonté de faire un certain théâtre, une volonté aussi de donner beaucoup de place à l'acteur et au texte, et puis aux rencontres aussi entre le texte et la personne qui va le jouer. Je veux dire, tous les projets ont pour moi un sens. Quand on monte un spectacle, le dernier, par exemple, au Costa Rica, on a travaillé sur un féminicide qui était un fait divers qui a bousculé le Costa Rica pendant plusieurs années, tellement le fait divers était terrible, d'une violence terrible, un féminicide. Et j'ai donc retrouvé une des personnes, une des survivantes. On a fait tout un travail autour de ça, sans tomber d'ailleurs dans un spectacle extrêmement dramatique, à des moments dramatiques, mais aussi avec des moments de légèreté. Quand j'ai rencontré pour la première fois les SDF, j'ai pensé tout de suite au texte Gorky, les bas-fonds. À Cuba, c'était des malades psychiatriques. J'ai travaillé sur un personnage très très connu, un Don Quichotte, qui est mort en hôpital psychiatrique, dans une sorte de Don Quichotte, un personnage complètement fou, mais céleste, d'une intelligence incroyable. Donc et je pense que c'est important de s'adapter aussi à la troupe avec laquelle on travaille. Peut-être laisser la parole à nos amis acteurs aussi.
T'as dit beaucoup de choses. Ouais. C'est intéressant parce que d'avoir ton regard, ta façon de travailler, parce que nous on te voit dans le travail concret, mais là tu l'as intellectualisé un peu plus et c'est intéressant, moi je trouve, de voir comment tu réagis vis-à-vis de nous et vis-à-vis de toi, ton passé sur ce travail théâtral. Mais nous on a, ça nous donne en tout cas au final beaucoup de plaisir et pourquoi on s'accroche.
Et donc Géraldine, tu n'as pas...
Moi, je peux dire un mot quand même.
Oui, vas-y, David.
Parler de mon plaisir de jouer avec toi, Serge, parce que tu nous laisses très libres et en même temps, tu nous amènes tranquillement vers une finalité que tu perçois.
C'est parfaitement vrai.
Et sans jamais nous contraindre très directement. Et donc, tu prends pas, tu nous comment dire, tu nous, voilà, tu nous pétris un peu tout doucement vers une finalité bien précise et qui donne quelque chose. Et c'est très agréable pour nous, enfin, en tout cas pour moi, de jouer avec toi.
Une très belle remarque, c'est vrai. C'est, il fait ça.
Ce que tu dis me rappelle un ami, Jean Miès, qui était quelqu'un du grand banditisme que j'ai connu en prison. Parce que pour les faire jouer un Don Juan, où lui-même a dû à un moment remplacer le rôle, parce que personne ne voulait le jouer d'un chien dans la pièce, et qui m'a dit, mais t'as une autorité diabolique. J'ai dit, mais quelle autorité? Il me dit, bah, t'as l'autorité de la tendresse, t'arrives à nous emmener où tu veux. Et c'est vrai qu'aussi, ces gens-là m'ont aussi un peu changé, quand même, de rencontrer des gens vraiment à l'extrême marginalité. Et ce que je tiens à dire aussi, c'est que dans ces troupes-là, dans ces amateurs, j'ai rencontré des acteurs extraordinaires, dont bon, Bibi Nasri, qui aujourd'hui en a fait son métier, mais d'autres moins connus, ou d'autres qui n'ont pas forcément continué à jouer, que ce soit en Bourgogne, avec des jeunes, mais des jeunes de 15-16 ans, mais qui étaient des... Et c'est là où je n'ai aucune frustration, parce que c'est extraordinaire de pouvoir aussi travailler avec un groupe de 200 acteurs qui s'offrent ce luxe, comme j'ai pu le faire, par exemple, à Cuba... au Costa Rica, ils étaient 43 jeunes sur scène. Voilà, ça permet aussi d'envisager des projets extrêmement ambitieux, extrêmement complexes, avec de la musique, avec des groupes, avec des... Voilà, c'est aussi une chance. Et là, c'est égoïstement, je le dis, que je prends beaucoup, beaucoup de plaisir aussi à faire ce travail avec des groupes auxquels on n'aurait pas accès, et en quantité, et puis aussi avec des gens qui, sur scène, sont... mais incroyable, quoi. Je veux dire, souvent d'ailleurs on me demande qui sont les professionnels, comme c'était le cas au Costa Rica, et parce qu'il y avait des détenus, et effectivement il y avait des jeunes du conservatoire qui étaient des futurs professionnels, et le public s'il y avait une palme à donner, l'aurait pas donné justement aux jeunes qui avaient déjà 5-6 ans de théâtre, et plutôt à des gens qui venaient de rencontrer le théâtre aussi, peut-être parce que ce sont des gens qui sont aussi dans une, comme un peu dans une cocotte minute, c'est-à-dire ils n'ont pas l'autorisation d'exprimer leurs sentiments. C'est des lieux, quand on est en prison, quand on est dans un foyer, quand on a été violenté, et ben on s'exprime plus, et le théâtre le permet, et quand la cocotte minute s'ouvre, ben là ça c'est extraordinaire, et je tombe sur des gens formidables. Et puis au fur et à mesure, je leur donne des contraintes de diction, de projeter la voix. Mais au début, ce qui m'intéresse, c'est de voir jusqu'où va la profondeur de leurs émotions.
Ensuite, ce qu'il faut dire, c'est que peut-être les personnes sont très différentes. Tu vas rencontrer quelqu'un qui peut jouer du théâtre de manière presque professionnelle, ou bien tu as des gens qui vont amener une telle vérité sur le plateau, comme on en a vu là dans le spectacle précédent, que c'est absolument bouleversant. Alors ils peuvent peut-être jouer de cette manière exactement cette chose-là. Après, il faut trouver cette chose-là, celle qu'ils peuvent faire, dans laquelle ils pulvérisent tout, alors qu'ils vont peut-être... ça va peut-être tomber à plat s'ils essayent de faire autre chose, mais de trouver cette chose-là, ça c'est ton travail après. Hein.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire... correspondre, quoi, qu'il y ait une harmonie entre la création et le groupe avec lequel on travaille quand on travaille justement dans ces déserts culturels, c'est-à-dire que ça donne un sens, et puis qu'ils ont envie de défendre, envie de se battre pour ce qu'ils vont dire et ce qu'ils vont faire sur scène, effectivement, oui.
Et puis il y a un modèle, c'est les comédiens professionnels qui travaillent entre eux, avec des metteurs en scène professionnels, et ce que vous faites, c'est-à-dire, il y a des gens qui se réunissent et qui ne se seraient jamais rencontrés sans ce projet. Et ça, c'est intéressant.
Oui, tout à fait, oui.
Voilà, en ce sens, le théâtre a un rôle d'agora, éventuellement, hein, comme avant, de réunir les gens les plus différents autour de quelque chose. Donc, maintenant, Jean Tardieu. Jean Tardieu, c'est très bien de nous rappeler cette écriture, cet univers. Donc, mieux vaut Tardieu que jamais, dirais-je. c'est un truc que ses copains ont dû lui faire beaucoup de son vivant. Hein. Il est décédé en 1995. Et Jean Tardieu, oui, il avait son écriture. Et il y a dans ces petites pièces que vous jouez et que lui, il appelait des poèmes à jouer. C'est-à-dire, il y a une grande importance des mots, des sons, de la sonorité des voix. Et il y a une quête de sens. Il y a une manière de se demander quel est le sens des mots, du langage, et oui, de jouer avec le non-sens de tout ça. Bon, c'est le surréalisme, c'est bon Ionesco et tous les autres, ou Daniel Rams en Russie, etc., et qui un peu démonte les logiques habituelles et qui remet en question le fonctionnement d'une construction, d'une pensée, etc., qui joue avec ça et qui nous montre un peu l'absurdité dans beaucoup de choses. Et oui, vous pouvez nous dire comment vous travaillez justement sur ces aspects-là de la sonorité, des voix, de la poésie, des mélodies. C'est presque quelque chose parfois de musical.
Ben, ceux qui travaillent déjà sur la sonate, il y a une scène qui s'appelle la sonate qu'ils vont lire, mais déjà, comment, la question de Thomas, comment vous y travaillez parce que ce qui est intéressant, je pense, David, c'est qu'à la lecture, on ne savait pas trop. Hein.
Alors, on a eu très peur à la première lecture, parce qu'on n'avait pas du tout compris ce sens musical. Et justement, c'est une musique très rythmée, ABC, ABC, BC, A. Voilà, et dès qu'on a commencé à comprendre ce côté musical, et donc poétique aussi, tout est venu très naturellement et le jeu est sorti naturellement. Mais il nous a fallu quelque temps parce que voilà, ça, c'est, enfin pour moi en tout cas très nouveau.
Et ce qui est joli en voyant ce travail qu'ils ont fait sur cette scène là, c'est vraiment une partition. C'est comme une partition musicale. Et en fait, on a l'impression de en tant que spectateur de sentir la musique à travers leurs mots et leurs voix. Le rythme est là et tout d'un coup, on est dans un autre monde et c'est assez magique.
Bah, je vous propose de lire, de jouer, pardon, un passage de la sonate donc, de Jean Tardieu à trois personnages.
Avez-vous pu voir ce que c'était ?
Non, je n'ai pas pu le voir.
Bien sûr, puisqu'il n'y avait rien à voir.
Il n'y avait rien à voir. Mais il y avait beaucoup de choses à savoir.
Ah, et vous êtes arrivé à savoir quelque chose ?
En tout cas, j'étais tout près de savoir.
En somme, vous étiez dans les dispositions qu'il faut.
Oui, c'est cela, dans les dispositions qu'il faut.
Dans les dispositions qu'il faut pour savoir quelque chose.
Quand il y a quelque chose à savoir, bien entendu.
Bien entendu.
Bien entendu.
Et qu'est-ce que... Oh, pardon.
Oh, pardon.
Oh, pardon.
Je vous en prie.
Commencez-vous-même.
Je n'en ferai rien.
Alors c'est à vous.
Je voulais vous dire, puisque vous m'y invitez si courtoisement, puisque vous m'invitez si courtoisement que je ne puis refuser, je voulais vous dire, en somme, qu'avez-vous su ?
Ce que nous avons su ?
Ce que nous avons su ?
Eh bien, mais nous avons su que nous étions tout près de savoir ce qu'il y a à savoir quand il y a quelque chose à savoir.
C'est évident.
Oui, mais encore ?
Encore quoi, voulez-vous que je recommence ?
Ah, peut-être que oui, peut-être que je n'ai pas bien compris.
Puisqu'il le demande, recommencez.
Eh bien, très volontiers, puisque vous le demandez. Alors voici, nous avons su comment on est quand on se trouve tout près de savoir ce qu'il y a à savoir lorsqu'il y a quelque chose à savoir.
Mais précisément, il y a quelque chose à savoir.
Parbleu, oui, je suis de votre avis, il y a quelque chose à savoir.
Personne n'a jamais dit le contraire, il y a quelque chose à savoir.
Et en vous approchant... Êtes-vous arrivé à savoir quelque chose ?
En tout cas, nous avons su que cela se passait là.
Que cela se passait dans une grande plaine.
Ah, n'est-ce pas ? Dans une grande étendue.
Oui, dans une grande étendue.
Une grande étendue dans le soir.
Dans le soir.
Dans le soir.
Dans le soir, dans le soir.
Dans le soir, dans le soir, dans le soir.
Dans le soir.
Soir.
Soir, soir.
Soir, 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 soir.
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 Soir. Soir. Soir.
Soir.
Voilà, la sonate est composée de, bah, de trois morceaux. Là, vous avez entendu le second. Et c'est vrai que c'est musicalement, et l'écriture est extrêmement incroyable parce que à la lecture, on ne sait pas trop. Et une fois que l'acteur s'implique dedans, on découvre bah, d'abord l'intelligence. Ils se disent beaucoup de choses à travers des choses extrêmement absurdes. En même temps, ils se moquent un peu de notre société. Des gens qui savent, de cette, disons, classe supérieure, qui connaît tout, qui sort d'un spectacle, et c'est, voilà, c'est drôle, c'est souriant, et c'est musical.
Et voilà, et bravo, et parce que les voix sont très belles. Évidemment, je pense que si Tardieu travaillait, insistait autant sur les timbres, les intonations, les voix, etc., c'est peut-être aussi parce qu'il faisait de la radio. Et vous, ça marche très très bien pour la radio, mais qu'en est-il sur le plateau? Comment est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez des petits micros? Comment est-ce que vous jouez? Et ce sera à l'espace Beaujon qui... Bon, dites-nous comment ça va se passer, parce qu'il me semble qu'il y a une cour, qu'il y a là des spectacles en plein air. Alors est-ce que vous jouez à l'intérieur ou à l'extérieur?
Je joue à l'intérieur.
Avec micro, sans micro, comment est-ce que vous faites? Parce que là, à la radio, c'est absolument magnifique. Et comment ça sera sur le plateau?
En fait, on joue sans micro. On est dans une vraie salle de théâtre. L'espace Beaujon a une salle de théâtre. Et il y aura juste une scène où une des... Enfin, c'est moi, en fait, qui utiliserai un micro, mais on ne me verra pas. Voilà, c'est la seule scène où le micro sera utilisé. Parce que la personne qui sera ma partenaire sera sur scène et vivra cette expérience avec cette voix qu'elle entendra de partout et elle ne me verra jamais.
C'est la jeune fille et le haut-parleur, le nom de cette pièce, parce qu'en fait ce ne sont pas des scènes, ce sont des pièces courtes, ce qui est assez rare aussi d'en avoir écrit autant.
Voilà, ce serait une belle chose de faire un enregistrement avec ces belles voix. Voilà, avec ces belles voix, avec ces rythmes. Et puisque ce sont des séquences assez brèves, des poèmes à jouer, comme il disait. Donc voilà. Et il disait aussi quelque part, il a écrit « J'ai oublié le sens des mots. Je ne suis plus qu'un murmure, soulevé par la joie, serré par la douleur. Des mots, moins que des mots, des sons, des plaintes, des cris, des gestes de la voix. Un murmure sans parole parmi d'autres murmures. » Quelque chose comme ça. Donc, ça nous ramène à quelque chose qui est derrière les mots, qui va au-delà des mots. Parce que c'est toujours la question du sens, du pouvoir des mots. Est-ce que les mots font sens? Et dans un monde qui fait sens de moins en moins, qu'est-ce que les mots peuvent faire? Et peut-être que cette poésie jouée de Tardieu nous ramène à quelque chose de plus essentiel, de plus humain, quoi.
Ouais, moi je veux bien réagir par rapport à ça, parce que dans la vie je travaille beaucoup avec les émotions, l'intelligence émotionnelle, et en fait finalement, cette quête de sens qu'on est en train de jouer aussi avec la voix, les rythmes, c'est aussi de lâcher prise et de montrer nos émotions, de travailler sur ces jeux-là. Oui, parfois on est joyeux, parfois on est triste, parfois on est en colère. Et c'est la valse dont on parlait tout à l'heure sur cette montagne russe entre ces différentes pièces courtes. Se dire, en fait, notre humanité, c'est de pouvoir être en capacité de se montrer vulnérable avec les émotions qu'on a en fonction des rencontres qu'on peut faire. Ouais, pour moi, c'est ça, cette expérience du théâtre.
Ah oui, ça m'a l'air intéressant aussi, parce qu'effectivement, quand il y a des gens qui sont ensemble, qui font différents métiers, c'est aussi, peut-être quand vous discutez entre vous aussi, c'est aussi la vie qui peut éclairer une œuvre comme ça.
Quelqu'un veut répondre? Allez.
Mais vous avez peut-être des discussions.
Alors, De répondre, effectivement, La vie qui éclaire ces œuvres-là, si je parle de ma propre expérience, au démarrage des textes, je ne l'ai pas senti. C'est-à-dire que j'ai appréhendé le texte, je ne voyais pas trop comment moi j'allais pouvoir m'exprimer à travers les différents personnages. Et puis c'est aussi au fur et à mesure des rencontres, des retours qu'on a, quand on tente des choses, quand Serge aussi nous identifie sur tel ou tel personnage, nous on se voit pas forcément bien tout de suite là-dedans, et puis en relisant le texte, en jouant justement avec ses émotions, en tentant des choses, en lâchant prise, bah, y a quelque chose de nouveau qui advient. Et c'est tout ce travail-là d'accompagnement, et je pense qu'effectivement, moi j'ai ma vie, d'autres partenaires sur scène ont la leur, on n'a pas les mêmes problématiques, on n'a pas la même histoire, on n'a pas le même passé, on n'a pas le même présent, on n'a pas le même métier, on n'a pas la même façon d'interpréter Tardieu, et donc du coup je pense que c'est ça aussi qui fait que y a quelque chose qui advient en fait au fur et à mesure entre nous. En tout cas c'est moi comment je le vis, je sais pas pour vous si c'est différent.
Moi, j'acquiesce.
Oui, c'est vrai. On peut acquiescer. Et en même temps, j'aurais tendance à dire, je vois les choses peut-être qui m'apparaissent, moi, plus simples. C'est-à-dire que j'essaye d'être là et d'interpréter, mais j'essaye surtout de vivre un moment qui me donne plus de vie à ma vie du quotidien, si je peux dire. Et c'est ce que je trouve intéressant dans ces séances à la fois de travail et de représentation, c'est que on se sent vif, quoi, quand dès qu'on est dans ce genre de travail. Je serais pas capable de l'interpréter aussi précisément que toi, Sidonie, mais voilà. Et je pense que c'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que j'aime être avec vous, et c'est comme ça que moi que je fonctionne, en tout cas.
C'est vrai que notre premier public, finalement, c'est vous. Pendant tous ces ateliers, pendant ces mois entiers d'ateliers, notre premier public, c'est vous. Et c'est vrai que de vous entendre nous complimenter sur les évolutions entre la fois précédente, l'atelier précédent, ou il y a plusieurs semaines, ça nous encourage, ça nous donne encore plus de motivation pour arriver vraiment au bout de ce que l'on veut faire passer comme émotion. Et c'est vrai que ça... Voilà, je vous remercie tous. alors, ceux qui seront là, ceux qui ne sont pas là aussi. Et évidemment, Serge qui met tout ça en musique pour que l'on passe d'excellents moments.
On se fait gronder aussi hein, quand on ne sait pas nos textes. Hein. Mais toujours avec autorité et tendresse.
Oui, et toujours... Ouais, mais il y a de la bienveillance, ouais, toujours.
Évidemment.
En fait, et il y a toujours quelqu'un qui vous dit « Finissez vos phrases !»
Non, mais en ça, fait aussi...
c'est de Tardieu aussi.
À la différence de vous, parfois, c'est que, comme tu disais, David, c'est que je projette déjà vers où on va. Je sais, malgré les difficultés, même s'il y a quelques moments où, par exemple, un comédien peut avoir plus de difficultés, je sais qu'on va s'en sortir par tel biais. Et puis, moi, j'ai comme image dans mon travail, en général, c'est l'entonnoir. C'est-à-dire qu'on met tout dedans, et puis au fur et à mesure, il sort le meilleur. Et il sort le meilleur dans les derniers temps. Je veux dire, le théâtre, c'est très particulier, parce que je trouve que, par exemple, on répète pendant 2 mois, le premier mois, c'est un peu mollo, il ne se passe pas grand-chose, le deuxième, un petit peu plus... Et puis, la dernière semaine, on a l'impression d'avoir fait le travail des 2 mois, peut-être plus. Et puis, les 2-3 derniers jours, le travail de cette dernière semaine, multiple. Voilà. Et ouais, je pense que c'est le fait de la pression. Puis, il y a des choses aussi, parfois, que j'arrive pas à expliquer et qui se font. Mais en tout cas, moi, j'aime bien l'image de l'entonnoir en général, que ce soit avec des professionnels, que ce soit avec des amateurs. On met tout dedans. Et puis,
avec des professionnels, c'est pas... Cette explosion ne se fait pas bien avant
Pas forcément. Après, avec les professionnels, c'est très différent, parce qu'il y a des gens qui, dès le premier jour de répétition, sont prêts.
Ouais, c'est ça.
Et ils s'ennuient, ils ont l'impression qu'ils sont nuls, parce qu'on fait travailler les autres. Et voilà, il y a des disparités très fortes, et sur la mémoire, et sur l'interprétation. Moi, j'ai travaillé avec des comédiens qui, en première lecture, ils étaient dans le rôle, il n'y avait pas grand-chose à leur dire, et donc il s'ennuie sur scène après, mais qu'est-ce que je fais, pourquoi il fait travailler l'autre, et, mmh. et le doute vient et le doute s'amplifie, et ça c'est moi, ça c'est la la qualité du comédien, son défaut, c'est le
doute. Ah, on n'a pas ces problèmes-là, nous. Hein.
Quoique, on doute aussi.
Allez, on doute, oui, on doute beaucoup, mais pas à s'ennuyer, à attendre que l'autre.
Ah non, non.
Est-ce qu'on lit, je veux dire, on joue plutôt que lire, d'ailleurs.
Oui, vous pouvez encore jouer quelque chose, ça serait très bien. Vous avez une soirée, là, un programme qui est composé de 8 séquences, pièces ou extraits. Et il y a aussi, peut-être que parmi les personnes qui nous écoutent, l'une ou l'autre se souvient, peut-être que ça parle à quelqu'un. Le Guichet, par exemple, c'est très connu, oui, quand même. On l'a oublié aussi, mais quelque part, c'est très connu. Et puis, oui, là, j'avais envie de dire, la gare Tardieu ne se trouve pas forcément à Lyon, elle est, où vous voulez, elle est dans un espace indéfini, un espace absurde et tout ça. Mais si vous avez encore quelque chose que vous avez préparé, que vous pouvez nous donner à entendre, ce serait très très bien.
Bah oui, vous allez entendre Le Guichet, effectivement une pièce très connue comme un mot pour un autre de Tardieu. Donc, welcome, Le Guichet de Jean Tardieu.
Entrez, entrez!
Pardon, monsieur, c'est bien ici, le bureau des renseignements?
Ouais.
Ah bon? Très bien, très
bien.
C'est
pour des renseignements?
Oui, précisément.
Alors attendez!
Attendre quoi?
Mais attendez votre tour! Attendez qu'on vous appelle!
Mais je suis seule!
C'est faux! Nous sommes deux! Tenez, voici votre numéro d'appel. Numéro 3640.
Oui, numéro 3640. Mais je suis seule.
Vous vous figurez que vous êtes le seul client de la journée? Non. Allez vous asseoir et attendez que je vous appelle.
On continue, c'est un petit peu... Allez.
Allez, numéro 3640. J'ai dit numéro 3640.
Voilà.
Votre jeton.
Oh, pardon. Excusez-moi.
Merci.
Voici. Monsieur, je vais...
Votre nom.
Mon nom? Mais je...
Mais il n'y a pas de jeu, je vous demande votre nom.
Voici ma carte d'identité.
Mais je n'ai pas besoin de votre carte d'identité, je vous demande votre nom.
Dupont.
Comment écrivez-vous cela? Appelez, je vous prie.
Comme Dupont.
Bon. Date et lieu de naissance.
Je suis née au milieu du siècle dernier, dans l'Ouest.
Des précisions, vous payez ma tête, non?
Pas du tout, monsieur. Plus exactement, je suis née à Rennes en 1968.
Bon. Profession.
Civile.
Numéro de matricule.
Catégorie AN 9864, CCRDZ 740, 3 800 863.
Vous êtes marié, vous avez des enfants?
Pardon, monsieur, puis-je me permettre de m'étonner un peu? J'étais venue ici pour demander des renseignements. Et voilà que c'est vous qui m'en demandez.
Mais vous me poserez des questions quand votre tour viendra. Je vous demande si vous êtes marié, si vous avez des enfants, oui ou non.
C'est-à-dire...
Comment c'est-à-dire?
Oh là là, mais c'est si contrariant, moi qui étais pressée.
Alors si vous êtes si pressée que cela, vous avez intérêt à répondre vite et sans hésiter.
Oui, j'ai été mariée, j'ai des enfants, deux enfants.
Quel âge?
Je ne sais plus, moi. Bon, mais mettez 10 ans pour la fille, 8 ans pour mon garçon.
Vous-même, quel âge avez-vous?
Je vous ai donné ma date de naissance tout à l'heure.
Mais la date de naissance et l'âge, ce n'est pas la même chose. Les deux indications ne figurent pas au même endroit sur la fiche du client.
Oh, parce que vous faites une fiche pour tous ceux qui viennent ici vous demander des renseignements?
Nous sommes à moitié de la scène, à peu près, même pas. Mmh. Voilà. Mais ça marque bien l'univers de Tardieu. C'est pour ça aussi, en retravaillant Tardieu, je trouve quelque chose d'assez prémonitoire sur... notre société numérisée aujourd'hui, numérique.
C'est absolument hallucinant d'entendre ça, justement, parce que nous sommes dans une petite période là où toutes les semaines, vous avez dans les journaux une histoire où quelqu'un qui prend le train se heurte à la logique administrative de la SNCF avec toutes ces histoires absurdes de contrôle dans les trains. Et là... Boum, plein dans la gueule de la SNCF en quelque sorte. Putain, Dieu, c'est incroyable comment une chose absurde comme ça, une écriture, peut du coup rencontrer une étincelle, l'actualité. C'est assez magique, ouais, ouais, ouais. Alors, est-ce que on peut, quand on met en scène Tardieu, ajouter des choses dans la mise en scène, ou est-ce que vous faites quelque chose de très sobre? Est-ce que le plateau est nu, ou est-ce qu'il y a des choses que vous mettez autour, ou bien est-ce que c'est comme chez Beckett, où on n'a pas le droit de changer la scénographie d'un iota? Comment ça se passe avec Tardieu?
Ben on est allé plutôt vers le travail de l'acteur, avec une scénographie extrêmement épurée. Ce que j'aime aussi, de plus en plus d'ailleurs, je me rends compte que... Et de donner vraiment place à l'acteur, et puis vraiment dans le respect du texte, à 100%. Et être vraiment dans la compréhension du texte, et puis... et les rythmes, beaucoup aussi sur le travail des rythmes, de ne pas trop se tromper de rythme. Bon, il nous reste encore quelques jours pour...
Pour peaufiner...
cette musique, mais effectivement c'est extrêmement sobre du point de vue scénique, et voilà, on s'est juste amusé sur une scène à doubler les personnages dans la scène de pénombre et chuchotement, où c'est deux vieilles personnes qui se retrouvent dans une église et qui remettent en lumière leur histoire amoureuse qui n'a pas vraiment eu lieu, une histoire amoureuse qui a été finalement avortée. Et là, justement, le seul que le metteur en scène a apporté, c'est d'avoir fait deux couples, alors que c'est un seul couple qui se retrouve dans l'église. Mais pour le reste, j'ai vraiment... Les pièces sont tellement bien écrites, le texte est tellement puissant, que quoi rajouter mettre le passage d'un train au moment du guichet, pourquoi faire, tout est là, tout est dit, on fera un petit travail d'éclairage pour donner une atmosphère, mais je vois pas trop l'intérêt d'en rajouter, parce que beaucoup, c'est très chargé quand même, ce sont des scènes extrêmement et des textes extrêmement chargés en soi, où on a l'impression que il n'y a pas un trou, un creux.
Tout est dit.
Voilà. Pour répondre à la question.
Alors, après, vous dites sur le fly qui annonce le spectacle, vous dites notre troupe est composée de passionnés, tous ensemble avec Lévi, l'envie, ce désir de théâtre, etc. Pourtant, il et elle ont tous, entre guillemets, un vrai métier. Pourquoi pas? Ça, on en a parlé au début. Et même si le temps nous est compté, qu'il se fait trop rare parce que les enfants, pour certains, le travail et ses horaires implacables, la maman pour l'autre, une grippe parfois, une panne de réveil, les transports, la ligne 13, le RER A, etc. Donc, il y a toutes ces difficultés du quotidien qu'il faut surmonter pour pouvoir travailler, pour pouvoir se rendre aux répétitions, etc. Et aussi pour se rendre à une émission de radio. Donc, il y a certaines personnes qui ne sont pas là. Donc, vous pouvez nous parler de celles et ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, juste pour leur faire un petit coucou.
C'est gentil, bon, on leur fait un gros coucou.
En même temps, votre studio n'est pas très grand. Je ne sais pas comment on serait tous rentrés.
Si on rentre toujours.
On manque combien en tout? On est 10.
Ouais.
Ouais,
c'est ça. Oui.
Bah, il manque Sarah, Thierry.
Sarah, Thierry, Christine.
Edith, Christine, Oumema.
Et Oumema. Et oui, effectivement, parfois, c'est des, je veux dire, dans notre troupe, il y a des gens qui ont des rendez-vous, qui s'en vont à l'étranger, travailler, faut faire avec, ça fait partie de cette troupe, c'est vrai que c'est particulier, justement, une troupe amateur où les gens ont des métiers, parce que, ils se disent, on fait avec. Parfois, c'est un peu frustrant. Mais je sais que c'est la règle du jeu, donc il n'y a rien.
Mais c'est la même chose qu'à Radio Libertaire, où tout le monde est bénévole, tout le monde fait autre chose dans la vie et revient ici au studio de temps en temps pour animer une émission et pour partager une passion avec les auditrices et avec les auditeurs. Voilà, et bien sûr, vous pouvez aller à la librairie du Monde Libertaire, au 145 rue Amelot, et vous pouvez aussi aller sur le site internet fédération-anarchiste.org, et vous pouvez faire un petit don pour soutenir Radio Libertaire, voilà, ça c'est important aussi. Et vous pouvez aller voir le spectacle, donc T comme Tardieu, la compagnie du Labyrinthe, et ça se passe le 13 et le 14 juin, donc attention, c'est pas la semaine prochaine, le 13 et le 14 juin à 20h à l'espace Beaujon. Et bon, vous pouvez nous dire un peu ce qu'il faut savoir, comment réserver, comment y aller, qu'est-ce que c'est comme lieu, etc.
Bon, le plus simple pour réserver, c'est d'aller sur le site, je pense, de Billets Réduc et taper T comme Tardieu. Et là, il y a toutes les informations. Effectivement, on joue le 13 et 14 juin à 20h à l'espace Beaujon. Et voilà, on a choisi Billets Réduc pour nous faciliter aussi la vie. Et au niveau des réservations, c'est un très joli théâtre, petit théâtre de 90 places qui se trouve dans l'espace Beaujon. Et effectivement, ils font... à partir de juin, dans la cour aussi, ils font des spectacles en extérieur. C'est un lieu que je trouve plutôt très actif. Et on s'y sent bien, franchement.
Oui. Je me suis demandé, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font dans le 8e? c'est un lieu de la mairie de Paris.
Oui.
On s'est tous posé la question au début. Mais on est bien.
Mais c'est très beau.
Ouais, c'est beau et on est super bien accueillis à chaque fois. C'est très chouette.
Alors, l'adresse est 208 rue du Faubourg Saint-Honoré, dans le 8e. Comme métro, on a quoi ?
Charles de Gaulle ou Georges V.
Ou
Saint-Philippe-du-Roule.
13-14 juin, ça va tout juste, hein, avant qu'ils commencent à fermer toutes ces choses-là pour les Jeux Olympiques. Mais bon, alors, T comme Tardieu, donc, sous la direction artistique de Serge Sandor, avec 8 pièces ou petits poèmes à jouer, etc., etc., de Jean Tardieu, ce sera à 20h, le 13 et le 14 juin, à l'espace Beaujon. Et oui, l'espace Beaujon a aussi son site internet. Et voilà. Mais merci d'être venu. Et je vous souhaite plein de belles soirées, de répétitions, et puis un très beau spectacle.
On te remercie beaucoup.
Merci.
On
merci
avait préparé beaucoup. Une dernière courte. Une ou deux minutes pour donner la parole à Jérémy, mais il est trop tard peut-être.
Non,
bah allez-y, les docteurs.
Non, c'est pas moi. Qu'est-ce que tu veux faire?
Terminer.
Vous en allez au barras du choix, là.
Sidonie et David ou...
Oui, Sidonie et David. D'accord, terminer. Et en tout cas, merci beaucoup, Thomas. Et
on merci.
Aime, on aime
merci.
Être dans ce
merci
studio.
Beaucoup. Mmh.
Merci, Thomas.
Allez à la fenêtre, ma beauté, mon amour. Et dites ce que vous voyez.
J'aperçois une étoile dans le ciel.
Ne voyez-vous vraiment qu'une seule étoile ?
J'en vois une autre maintenant, et même plusieurs, et même une multitude.
Ne voyez-vous rien d'autre sous le ciel ?
Rien d'autre, mon ami.
Pas même un pauvre nuage ?
Pas même un pauvre nuage.
Pas même un malin petit esprit, moitié homme, moitié chauve-souris ?
Pas même un malin petit esprit.
Ne voyez-vous rien sur la terre ?
Je vois des nappes de clarté. Sur les arbres, des fils d'argent. L'eau qui luit entre les branches, les toits qui scintillent, la route qui va.
Et pas même, dans tout ceci, des fourgons masqués, ni des troupes en marche, ni des bêtes cornues dressées sur leurs jambes d'hommes ?
Rien de tout cela, mon ami. Ni fourgons, ni troupes, ni bêtes cornues.
Alors, que la paix soit au monde. Alors, aimez-moi comme cette lumière aime cette campagne.
Je vous aime ainsi, mon amour.
Remontez vers le ciel. Donnez-moi sa clarté dans votre voix, dans vos paroles.
Voilà, c'était pour aussi donner de Tardieu une autre couleur que les textes qu'on a entendus. Voilà, c'est assez extraordinaire. Cette poésie à travers ces textes, et parfois c'est d'une drôlerie, c'est burlesque, et là on est dans quelque chose d'une, dans la pure poésie.
Voilà, de magnifique, du Tardieu de toutes les couleurs.
Voilà, c'est ça.
Allez, merci d'être venu, et donc à bientôt.
Merci.
À
vous. Merci. Merci.
Dans le port de Saïgon est une jonque chinoise, mystérieuse et sournoise, dont on ne connaît pas le nom. Et le soir dans l'entrepont, quand la nuit se fait complice, des Européens se glissent, cherchant des coussins profonds. Opium, poison de rêve, fumée qui monte au ciel, c'est toi qui nous élève au paradis artificiel. Son doux visage, les yeux de mon aimé, par toi j'ai son image dans ton nuage de fumée.
à l'abri du demi-jour. Les lanternes qui se voilent sont de sinistres étoiles qui pâlissent tour à tour. Et le soir au parfum lourd, au gré de la fumée lente, le fumeur se représente ses plus beaux rêves d'amour. Opium, poison de rêve, fumée qui monte au ciel, c'est toi qui nous élève au paradis artificiel. Les yeux de mon aimé, par toi j'ai son image dans ton nuage de fumée. Puisqu'on dit que le bonheur n'existe pas sur la terre que les ailes de nos chimères puisse nous conduire ailleurs, au paradis enchanteur, plein de merveilleux mensonges. Dans l'ivresse de mes songes, j'ai failli perdre mon cœur. Opium, fumée cruelle. Opium, poison moqueur, c'est toi qui nous révèle tout le néant de notre cœur. S'il faut sur cette terre chasser tous les démons, chassons cette chimère, fumée légère, poison. Pourquoi que tu craques, pourquoi que tu flies? Pourquoi n'aimes-tu pas mon métier? T'as peur que je devienne alcoolique? C'est mon boulot de tout goûter. Les whisky, les vins, les meilleurs, ce sont des plantes bonnes pour mon cœur. Je travaille et j'ai le foie qui s'use. Et toi tu crois que je m'amuse? Je ne comprends pas que t'en aies marre. Je ne joue pas pour m'amuser. Le poker, c'est pas du hasard, à contrer non plus. Et un jour, la roue va tourner. Je connais le nom de tous les jockeys. Saint-Martin, Samani, Freddy Head, Boutboul, j'ai des combines pour l'écarter. Pendant que son portefeuille s'use, ma femme, elle croit que je m'amuse.
c'est étonnant, comme toutes les filles diffèrent par des tas de côtés. S'il m'arrive d'avoir une idylle, c'est plutôt par curiosité. J'suis un barjot d'anatomie, je l'étudie toutes les nuits. J'm'instruis et j'ai le cœur qui s'use. Et dire qu'elle croit que je m'amuse. J'instruis et j'ai le cœur qui s'use. Ma femme, elle croit que je m'amuse. Du pastis avec Francis, je bois de la bière avec Jean-Pierre, je bois du vin avec Sylvain, mais si je bois, bébé, c'est à cause. Jean-Jacques, avec Michel, c'est des cocktails. Je bois du whisky avec Johnny. Et mais si je bois, bébé, c'est à cause de toi. Je prends sur 8, je prends des piqûres pour que ça dure. Souvent touché, mais jamais déchiré. Sauf hier soir, mais si je bois. Watermelon man.
c'était facile de draguer les filles sur Blueberry Hill. De Fats Domino, ce slow tranquille dans un nouveau style les rendait faciles et nous rendait barjots avec nos blousons ricards, nos chemises à carreaux et avec nos boots en daim, on se trouvait beau. C'était facile d'emballer les filles sur Blueberry Hill. De Fats Domino, c'était les scooters, les surprises parties. On éteignait les lumières et c'était parti. La fille que j'aime toujours en Blueberry Hill. When I find you. Cette histoire s'est passée il y a longtemps en Auvergne où vivait un pochetron nommé Lucien Trognard. Un beau jour, sa fiancée partit avec un autre gars. Lucien fut très mécontent, il fut même vexé. Il se dit, ce gars-là, j'aurai sa peau. Le lendemain, il sella sa jument, embrassa sa maman et partit au galop. Lucien Trognard entra dans un bar et but de casa sans dire un seul mot. Il caressa les deux gros pétards qu'il avait apportés pour tuer Jojo. Son rival, en somme, avait brisé ce tome en lui volant la femme de ses rêves. Elle s'appelait Marie, disait s'appeler Lucie, mais tout le monde ici l'appelait Germaine. Lucien s'énervait car Jojo tardait et les casas lui montaient à la tête. En gesticulant et en bafouillant, il criait « Jojo, ça va être ta fête !» Oh, mais les heures passaient et Lucien buvait, courageusement accroché au comptoir, c'est en titubant et en bafouillant qu'à l'aube il se décida à partir. En regardant le soleil, il termina sa bouteille et Lucien s'effondra sans mot dire. Quand il se réveilla, puant le casar, il se dit que c'était chaque fois la même chose. Et Lucien Trougnard, quelque temps plus tard, était emporté par une énorme cirrhose. D'abord il s'appelle pas Léon, je me souviens plus de son prénom, je peux pourtant pas l'appeler Hortense, et puis ça n'a pas d'importance. Il a du beau beau Léon, il va peut-être canner Léon, il a du beau beau Léon, au pauvre Léon. On l'a mené à l'hôpital pour le soigner où il avait mal, il s'était fait mal dans la rue et on l'a soigné autre part, il est mort. Une autre. Allez, bon, d'accord, allez. 7 huîtres. Elle s'appelait Françoise, mais on l'appelait Framboise. Une idée de l'adjudant qui en avait très peu pourtant des idées. Elle nous servait à boire dans un bled du Maine-et-Loire. Mais c'était pas Madelon, elle portait un autre nom. Et puis d'abord pas question de lui prendre le menton. D'ailleurs elle était d'Antibes, quelle avanie. Avanie et framboise sont les mamelles du destin. Pour sûr qu'elle était d'Antibes, c'est plus loin que les Caraïbes. C'est plus loin que Caracas, est-ce plus près que Pézenas? Je ne sais pas. Et tout en étant française, elle était tout de même antibaise. Et bien qu'elle soit française, et malgré ses yeux de braise, ça ne me mettait pas à l'aise de la savoir antibaise. Moi qui serais plutôt pour qu'elle avanie, avanie et framboise sont les mamelles du destin. Elle avait peu d'avantages pour en avoir davantage. Elle s'en fit rajouter à l'Institut de beauté. Ah ah ah! On peut dans le Maine-et-Loire s'offrir de beaux seins en poire. Il y a un institut d'Angers qui opère sans danger, du plus jeune au plus âgé, on peut presque tout changer. excepté ce qu'on ne peut pas, qu'est la vanille. À vanille et framboise sont les mamelles du destin. Davantage, davantage, avantage, davantage, lui dis-je quand elle revint avec ses saints angevins. 2 × 10, permets donc que je l'utile, cette poitrine angevine. Mais elle m'a échappé, a pris du champ dans le pré, je lui ai pas couru après, je voulais pas attraper. Une angevine de poitrine, moralité, à vanille et mamelle, sont les framboises du destin. Ma velo bella facciata al balcone, ma velo bella sentirmi cantare, sto di canto una bella canzona, una chitarra la devo accordare. So di canto una bella canzona, una chitarra la devo accordare. Ma se tu dormi sul letto di piume, io ne dormo sul letto sassi, felice notte, calore tu passi. Quando tu dormi ti scordi di me, felice notte, calore tu passi. Quando tu dormi ti scordi di me. Ti vuol far un vestito di seta, ti vuol fare di mille colori, tutto pieno di rose e di fiori. Per incompensa di nostro primo amore, tutto pieno di rose e di fiori, per incompensa di nostro primo amore. Ma se li sogni li fossi nuveri, o quanto baci t'area di già dato, ma questa notte mi son sognato, né se né letto abbracciato con te, ma questa notte mi son sognato, né se né letto abbracciato con te. Ma devo andarmi paese da Dio, ma devo andarmi lontano da te. Addio bella, è l'ultima addio, quando tu dormi ti scordi di me. Addio bella, è l'ultima addio, quand es-tu dormi? Ti scordi di me? Une fleur du Japon sur ses tout petits talons, tous les soirs dansait dans un ballet. Sa beauté séduisit un jeune homme de Calvi, Haute-Corse, qui lui dit un jour tout son amour. Ah, répondit-elle, je suis peinée, je pars bientôt là-bas au Japon. Mais il reprit tout aussitôt: ah, Yokohama, jolie mousse, mais tu seras ma bien-aimée. Yakita, oh, Yakita, on s'adore là toute la vie. Tu seras ma belle amie, Yakita, oh Yakita. Et sur les flots berceurs, unissant leurs deux cœurs, les deux amoureux vivaient heureux. Lorsque venait la nuit, il se glissait sans bruit près de son amour. Et jusqu'au jour, serrant dans ses bras son corps si joli, si mignon, en la caressant, il murmurait dans un frisson: ah, Yokohama, jolie mousse, mais tu seras ma bien-aimée, Yakita, oh Yakita, on s'adore là toute la vie. Tu seras ma belle amie, Yakita, oh Yakita. Arrivé au Japon, retrouvant son nippon, la mousse s'enfuit vivre avec lui. Le jeune homme maintenant, dans l'opium enivrant, youhou, recherchant l'oubli, pleurant Calvi. Dans la fumée bleue, il revoit sa mousse, mais partout, ivre de poison, il fume encore ce pauvre fou. Ah, Yokohama, dans la fumée, il revoit sa bien-aimée, Yakita, oh Yakita, et là dans ses bras, toujours blottie, il l'adore pour la vie, Yakita, oh.